connaissez cette musique? Bien oui, c'est la musique d'ésotérisme expérimental avec Richard Glenn. Bonjour. Eh oui, je suis de retour sur les ondes de Montréal grâce à cette station de radio. Et évidemment, je n'ai jamais quitté le poste puisque depuis avril 1997, je suis sur Internet avec un immense site qui contient beaucoup des archives de l'époque d'ésotérisme expérimental diffusé autrefois sur les câbles au Québec, dans la région de Montréal, le Bas-Saint-Laurent, la ville de Québec et la région, le lac Saint-Jean, à peu près partout finalement, on suivait ésotérisme expérimental de décembre 1976 à avril 1997 sur les câbles et depuis avril 1997, maintenant sur Internet avec un site qui porte le nom de ésotérisme-exp.com. Alors, bienvenue pour les anciens qui me reconnaissent sûrement avec la voix, la même voix qu'autrefois, à la différence que le personnage qui avait une moustache, une grosse moustache. On est au mois de novembre, le mois de Movember, comme ils disent, le mois de la moustache. Alors, c'est mon retour. Et en plus, j'ai maintenant la barbe. Et une barbe vénérable blanche. Et on se prépare pour Noël, Père Noël. Alors, je suis bien content de retrouver le public qui... Plusieurs me retrouvent maintenant dans les conférences mensuelles que j'organise à tous les mois à Québec et à Montréal. Et plusieurs viennent aussi sur le forum de discussion qui est très animé et qui permet à tout le monde d'écrire leurs impressions, leurs commentaires, leurs suggestions. Et il y a des débats aussi qui se font entre forumiens qui écrivent sur une idée. C'est gratuit, mais il faut d'abord vous y inscrire. D'autre part, le site d'ésotérisme expérimental est divisé en deux sections. Une, grand public, qui présente à tous les samedis soirs en direct, s'il vous plaît, comme une émission de télévision d'autrefois avec ligne ouverte. Alors, pour toutes les personnes abonnées à Vidéotron, vous savez qu'il n'y a pas de frais interurbains. Alors, de téléphone de Vidéotron à Vidéotron, c'est gratuit et on reçoit sur deux lignes des appels de peu partout. Et comme c'est sur Internet diffusé directement, on a même des appels qui viennent du Venezuela, d'Allemagne, de France, du Japon. Évidemment, les gens parlent en français. Et ça nous permet d'avoir un contact avec des Québécois qui vivent dans d'autres pays, comme en Chine aussi. Alors oui, l'ésotérisme expérimental est toujours vivant, et même plus que jamais. Parce qu'avec Internet, ce n'est plus seulement sur la province de Québec, mais sur l'ensemble de la planète que le tout est diffusé. Et je sens qu'on est vraiment un point de mire à travers le monde dans la prise de conscience. On comprend bien que dans certains pays, la liberté d'expression, et j'allais presque dire la liberté de penser, est très réduite pour toutes sortes de raisons politiques dans certains cas ou religieuses dans d'autres cas. On doit donc en profiter, mais ne pas en abuser. Question juste de respecter les différences. J'ai déjà comparé les religions, moi, religion qui vient du terme religare, relier. C'est censé relier les humains entre eux, mais surtout avec la divinité, avec Dieu, ou avec, appelons ça maintenant, les plans spirituels supérieurs. Et j'ai déjà comparé ça en faisant de la menuiserie, j'ai eu un flash. Imaginez, on peut relier deux planches ensemble en utilisant des vis. Et on tourne les vis dans une première planche et à un moment donné, ça traverse la planche et ça rejoint la deuxième planche qu'on veut relier à la première planche. Et on tourne et ça relie les planches entre elles. C'est un peu ça un principe de la religion. Mais ça nous prend un tournevis. Et le tournevis, ça serait une religion. Vous savez comme moi qu'il y a différents modèles de vis. Hein? Il y a des vis avec des têtes en étoiles, d'autres des vis en croix. D'autres, c'est une ligne qui traverse la vis. D'autres, c'est même comme un hexagone. Hein? On appelle ça les Allen Key là, pour visser certaines vis. Alors, ça prend donc des tournevis différents qui s'adaptent aux têtes des vis différentes. Un peu comme les religions qui sont différentes sur la Terre doivent s'adapter à des à des têtes, à des gens qui ont des façons de penser, d'interpréter la divinité et qui veulent être reliés les uns aux autres ou avec la divinité ou avec les plans supérieurs. Alors, c'est un peu le même exemple pour les religions qui sont différentes, mais dans le fond, l'objectif est tout le même. C'est de relier tout le monde ensemble. Évidemment, avec Richard Glenn, vous me connaissez si vous êtes d'une certaine époque, j'allais presque dire du siècle dernier, ça fait encore plus vieux, hein? Dire le siècle dernier. Oui, dans les années 80, 70, 80, 90, donc à la fin du 20e siècle, on abordait tous les sujets imaginables et inimaginables. On était vraiment très, très précurseurs parce qu'on parlait de conspiration, on parlait de la génétique. Vous vous souvenez peut-être du docteur Raymond Bontemps qui nous parlait des cellules souches avec son fameux Vitalium. C'est disparu du marché, malheureusement peut-être, mais peut-être aussi qu'il y a des produits qui remplacent maintenant. Et on a parlé aussi de Nostradamus qui avait prévu la fin, ou en tout cas la vraie formule de Nostradamus pour 1999. La formule était claire parce que dans toutes les prophéties de Nostradamus, il y en avait seulement une date qui avait été mentionnée en clair, c'était 1999. Alors, 1999, 99, 7 mois, du ciel viendra un grand roi des frayeurs. Avant, après Mars, régner par bonheur. Ressusciter le grand roi d'Angoulmois. Alors, on peut se porter à toutes sortes de conjectures. L'an 1999, 7 mois, ça voulait bien dire le mois de 1999, 99, 7 mois, le 7e mois, c'est le mois de juillet. Et entre vous et moi, là, on a attendu qu'arrive le grand roi des frayeurs. Et tout est passé. Même le bug de l'an 2000 a passé et on dit que parce qu'on a dépassé on a dépensé des millions de dollars pour ajuster les ordinateurs qui étaient d'une ancienne génération, qu'en arrivant à l'an 00, puisque l'an 2000, on utilise toujours les deux derniers chiffres de l'année. Alors pour l'année 2000, ça devenait 00. Comme maintenant on est en 2014 ou 2015, on est tombé à 14 ou 15. Alors, pour 1999, c'était 9-9. Puis après, pour l'an 2000, la nuit du 31 décembre 1999 au 1er janvier 2000, les ordinateurs tomberaient puisqu'ils arriveraient à 0-0. Et 0-0, ça signifie rien. Alors, on pensait que les ascenseurs arrêteraient entre deux étages, que plein d'ordinateurs qui s'occupent de comptabilité pour les banques et tout ça étaient pour tomber en panne en arrivant à 00 à l'heure de minuit du 31 décembre au 1er janvier 2000. Ça aurait été 00 et l'heure 0, 0, 0. Alors, tous des zéros, c'était même un code reconnu par des ordinateurs pour dire « stop ». C'est la raison pour laquelle on parlait beaucoup du bug de l'an 2000. On y a échappé. Dans certaines prophéties, on a dit qu'il y aura trois avertissements. Mais deux avertissements qui seraient faux et le troisième serait la calamité. Évidemment, ici, en ésotérisme expérimental, on regarde tout ça avec un certain recul. Tout le monde entend parler de l'apocalypse, les jours de l'apocalypse. Ben oui, ben l'apocalypse... Est-ce que c'est vraiment catastrophique à ce point-là? Parce que, si on prend du recul, c'est de considérer que l'Apocalypse, c'est les jours de la révélation et de dévoiler l'information à tout le monde. Plus rien ne sera caché, disait-on dans les textes. Tout ce qui avait été caché sera dévoilé. Eh bien oui, l'Apocalypse, qui présente des éléments tristes, dramatiques, de destruction, de souffrance pour l'humanité, nous annonce en même temps l'arrivée d'un nouveau monde, l'arrivée de la Jérusalem céleste sur les monts de Sion pour après ça aller sur une terre nouvelle et sous des cieux nouveaux. Et je pourrais comparer un peu à l'enfantement ou la naissance. Est-ce que la naissance d'un enfant, c'est triste? C'est sûr que pour la mère qui va accoucher dans la douleur, c'est pénible. Mais bien souvent, on nous dit qu'après l'accouchement, on oublie les douleurs. La femme qui a enfanté, elle s'occupe du bébé, du nouveau-né, et là, on pourrait dire du nouveau monde, et que les périodes de transition, d'enfantement, d'ailleurs, dans la Bible, on nous représente d'ailleurs les passages des moments pénibles de l'humanité au moment du grand changement, comme les douleurs qui prennent la femme enceinte avant l'accouchement. Et au bout de tout ça, l'objectif est de faire naître un nouveau monde. Est-ce que ce n'est pas plutôt joyeux, heureux, que dramatique, épeurant? Surtout que tout ça est sous contrôle. Et oui, et sous contrôle parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel, sous le soleil, comme diraient les textes anciens. En effet, tout est sous contrôle, même s'il y a eu un déluge à une époque reculée de l'humanité, où il y a eu des gens qui ont été épargnés. De la même manière, dans les événements à venir, on nous annonce qu'il y aura des gens qui seront épargnés de la destruction de leur corps physique. Mais est-ce que c'est vraiment l'objectif ultime de sauver son corps? Vous savez qu'il y a une chose qui est garantie, c'est qu'on est tous condamnés à mort à partir du premier jour de notre naissance. Ben oui, parce que la vie est une maladie mortelle transmise sexuellement. C'est pas moi qui l'invente. Mais lorsque on réalise que après la vie du corps, il y a encore de la vie, et ça, c'est on pourrait se fier sur les travaux des neurologues, des spécialistes en neurologie, comme Mario Beauregard, qui était attaché à l'Université de Montréal au Québec, et qui maintenant s'est expatrié aux États-Unis pour peut-être poursuivre avec plus de moyens et plus de crédibilité le travail qu'il faisait ici au Québec. Et il nous a expliqué clairement à plusieurs émissions, dans ses livres aussi, à quel point la conscience subsiste à la mort du corps. Mais évidemment, on va se dire comment on peut le savoir parce que personne n'est revenu après la mort. Non, mais si on prend le cas de Pamela Reynolds, le cas sur lequel Mario Beauregard s'appuie très souvent pour expliquer sa position scientifique, très scientifique sur le sujet, c'est que Pamela Reynolds, le cœur était arrêté, mais vraiment complètement arrêté. Il n'y avait plus aucun signal de son cerveau. Elle était donc comme morte. Parce que si le cœur ne fonctionne plus, si le cerveau ne fonctionne plus, il n'y a vraiment plus rien là, qui fonctionne. C'est sûr qu'à l'époque ancienne où on jugeait que la mort était officielle à partir du moment où il n'y avait plus de vapeur qui apparaît sur un miroir, qu'on plaçait un petit miroir, qu'on plaçait proche de la bouche ou des narines de quelqu'un qui était censé être décédé. Et même si on ne pouvait plus percevoir le pouls dans les veines, on pouvait percevoir qu'à un moment ou l'autre, il y avait un petit peu de vapeur qui apparaissait sur le miroir et l'on disait « il respire encore ». Mais dans le cas de Pamela Reynolds, il n'y avait absolument plus rien. C'était ce qu'on peut appeler une mort clinique, officielle. Et chose très étrange, après plusieurs heures sur une table d'opération, traitement en choc, on la ranime et elle reprend vie. Il y en a plusieurs qui, malheureusement, après, tombent dans le coma. Et puis, on va dire, ils sont à l'état végétatif. Ils sont comme, on dit, des légumes. Oui, parce que les différents niveaux de notre être, ça commence par le plan minéral. Ensuite, on organise. Les atomes créent graduellement des molécules. Les molécules créent même des cellules. Puis ça, on en reparlera. Mais c'est grâce à un choc électrique. Pour nous, l'être humain, c'est peut-être le moment de l'excitation, de l'orgasme, autant que pour les animaux. Et je ne sais pas si chez les végétaux, il y a un orgasme dans la transmission de la vie, mais toujours est-il que la vie apparaît, ce sont des cellules, les cellules qui créent des organismes, et les organismes ont des organes qui deviennent finalement des êtres animaux, alors du végétal, animal, hominal, c'est nous l'être humain. Et Pamela Reynolds, qui avait son corps animal, qui aurait pu rester à un état végétatif, sans aucune autre réaction que le minimum vital, continuer à grandir, à vieillir, mais à se nourrir sans pouvoir bouger, en restant là comme ça, inerte sur dans un lit. Ben non, elle a repris vie, puis elle a repris tous ses esprits même. Et elle a pu, quelque temps plus tard, expliquer ce qui lui est arrivé durant la période où on la considérait comme cliniquement morte. Elle a dit qu'elle était en train de regarder les gens s'affairer autour de son corps sur la table d'opération. Elle a donné des détails très, très précis sur les phrases que les médecins, les infirmières se disaient. Elle a pu se promener aux alentours, même sortir de l'hôpital pendant que son corps était toujours sur le lit et en revenir. On a vérifié ses dires, on a vérifié des détails qu'elle ne pouvait pas savoir, mais ça a été confirmé. Donc, Mario Beauregard s'est servi de ce cas, on peut dire là, scientifique, puisque pour les scientifiques, le dogme, parce que oui, la science est comme une religion aussi, elle a des dogmes. Et le dogme scientifique de base, c'est que on dit, dans les mêmes conditions, si on répète les mêmes expériences, on va obtenir les mêmes résultats à chaque fois. Alors, c'est la démarche scientifique. Ce n'est pas une démarche de foi ou de croire. C'est une démarche expérimentale en laboratoire. Et là, on a un problème quand on est dans le domaine de l'ésotérisme où on a l'ouverture d'esprit autant sur le monde invisible que sur le monde visible, sur le monde vérifiable ou invérifiable, parce que, en effet, il y a des choses qu'on ne peut pas répéter en laboratoire. Ce sont des événements qui se vivent dans l'intimité de l'être, qu'on va appeler l'oratoire au lieu du laboratoire. Et là, on l'a expérimenté, on n'a pas de preuves objective, dans le sens qu'on ne peut pas dire on va s'en aller dans un laboratoire scientifique et au signal, on va répéter les mêmes expériences, on va revivre le même. C'est un peu comme si on vous demandait de revivre le même rêve que vous aviez déjà vécu. En effet, on peut avoir des rêves récurrents, retrouver un rêve qu'on a eu il y a 2 jours ou la veille, parce que des fois, de nuit à l'autre, on se rendort, puis whoop, on a l'impression qu'on retombe dans le même rêve et ça se continue. Oui, mais ce n'est pas sur commande. Comme en laboratoire, eux fonctionnent sur commande. Il faut arriver au même résultat. Et dans le domaine psychique, ben, c'est beaucoup dans l'aléatoire, dans le subjectif, au lieu d'être dans objectif. Objectif, ça veut dire c'est indépendant de tout, alors que subjectif, c'est le sujet qui décide de gérer les événements puis le vécu. Alors derrière tout ça, il y a une démarche ésotérique qui nous rassure, parce que autrefois c'était la religion qui nous donnait des réponses toutes faites, toutes prêtes. Vous vous souvenez peut-être de l'époque du petit catéchisme. Dans les premières pages, on nous disait tout ce qu'il nous faut savoir, avoir et pouvoir. Eh ben oui, mais c'était un peu du tout fait. Ça devenait presque objectif, alors que la démarche spirituelle est subjective. Et les religions ont pris le bord, la plupart, excepté ceux qui sont fascinés par le fanatisme, qu'ils soient chrétiens, musulmans, juifs. Et je les ai nommés les 3 religions principales que nous connaissons ici en Occident. En Occident, qui occident. Occident, c'est vrai, ça ne s'écrit pas de la même façon, mais là, moi, je parle de la langue des oiseaux. C'est-à-dire la langue de l'esprit. On représente toujours l'esprit, El Condor Pasa, au Pérou. Ou alors la colombe, vous savez, l'oiseau qui vole au-dessus des contingences terrestres, temporelles, terre à terre. L'oiseau, avec ses ailes, s'élève au-dessus. Et alors, les religions, donc, ont chacune, j'ai nommé, le judaïsme le plus ancien, la religion juive. Le judaïsme, le christianisme est arrivé au milieu avec Jésus et après est arrivé Mahomet avec l'islamisme. Oui, alors quand on parle d'isme, islamisme, protestantisme, catholicisme, isme, ce sont des systèmes. Et quand on parle de système, on parle de structure qui impose, qui oblige. C'est un peu comme la ligne de parti politique. D'ailleurs, la religion est souvent comparée à de la politique cosmique. Ah ben oui, exactement comme en politique, il faut avoir des adeptes, il faut avoir sa carte de membre, c'est-à-dire il faut être baptisé dans certains cas, il faut avoir une identité imprimée, et là on n'en sort pas. Quand on te demande de quelle religion êtes-vous, ben, tu vas l'écrire sur des formulaires, catholique, protestant, chacun a son... Et dans ces ismes-là, bien évidemment, il y a des règles à suivre, non seulement sur le plan spirituel, mais même sur le plan matériel, des rituels. Hein? On rituel, ouais. Parce qu'on impose une façon d'agir, une façon de faire. Et malgré tout, il y a beaucoup de ces façons de faire qui évoluent avec le temps. Alors on se rend compte qu'actuellement, dans le catholicisme géré par Rome, alors, avec le pape François, avez-vous remarqué que Rome, quand on sert des ordinateurs, on a deux types de mémoire, hein? La mémoire active, la mémoire vive et la mémoire morte. Laquelle s'appelle la mémoire morte? Read only memory. C'est Rome. Alors, Rome, c'est pas un... c'est peut-être encore un clin d'œil des anges. Moi, j'appelle les hasards la science des anges. Parce que les anges, des êtres spirituels, sont capables de d'inspirer les êtres humains dans différentes directions pour faire passer des messages. Parce que l'inspiration, lorsque tu as une intuition pour écrire un mot ou travailler sur tel ou tel domaine, d'une telle façon plutôt que telle autre façon, qu'est-ce qui fait que tu as pris telle décision plutôt que telle autre décision? C'est pas dans la matière, c'est l'inspiration que tu as eue, l'intuition. Là, on se réfère au monde de l'esprit, à l'état pur. Et les anges sont placés justement dans cet univers de l'esprit à l'état pur, sans posséder de corps lourd, matériel, limité dans le temps et dans l'espace. Un jour, on s'en reparlera parce que ça entre avec le domaine de la physique quantique. Moi, j'aime mieux l'appeler la physique quantique, quanta, que quantique, parce qu'avec le mot quantique, on se demande si on sait que la physique quantique... C'est basé sur les quantités, des paquets, comme ils disent, des paquets d'informations. Un peu comme on fait en ordinateur, hein? On envoie les data, les informations, les données par paquet. Alors, c'est quantique, mais non, c'est quantique. Alors que la physique quantique, quanta, qui nous permet d'entrer presque dans le monde de l'esprit à l'état pur. Vous savez, les Grecs avaient deux mots importants. Vous m'entendrez souvent revenir avec ces termes-là. On les appelle le monde phénoménal dans lequel nous sommes. Tout le monde connaît, hein, c'est phénoménal. C'est les phénomènes qu'on peut observer, qu'on peut analyser en laboratoire, qui nous touchent subjectivement aussi bien que objectivement. Et l'univers nouménal, le noumen, le nous, comme diraient les Grecs, le plérôme, comme diraient les Gnostiques. Alors oui, il y a derrière le voile de la réalité matérielle toute une autre réalité invisible qui est dans cette dimension de la réalité, qui est la réalité spirituelle, qui était là bien avant le début de l'univers phénoménal. C'était le nouménal avant le Big Bang. Et là, si on se réfère à la tradition juive, on va comprendre que derrière le Big Bang, il y a eu quelque chose. Eux l'ont compris il y a très longtemps, dans ce qu'on va appeler les textes sacrés hébraïques. Et ça s'appelle, à cette époque-là, le Ein Sof Ur. Je le répète tout simplement, trois mots hébreux, Ein Sof Ur. On peut l'écrire en français Aour, A-O-U-R, Aour. Le Aour, c'est le Big Bang, c'est le moment de l'émanation. Tout apparaît. Mais avant, il y avait le Ein Sof. Et dans le Ein Sof, on est dans le monde de l'esprit pur, sans manifestation dans le temps et dans l'espace, limité dans la matière. Alors, le Ein, c'est un mot hébreu qui veut tout simplement dire l'œil. Ah bon, oui, l'œil, un œil. Mais c'est symbolique parce qu'il n'y a pas d'œil avec un globe oculaire, là. C'est simplement le fait de pouvoir voir. Vous vous souvenez de l'expérience dont je parlais au début avec Mario Beauregard et sa Pamela Reynolds? Elle ne disait pas qu'elle touchait les objets. Elle disait qu'en circulant, elle les voyait. Elle avait des yeux. Pourtant, elle n'avait pas d'œil. Son corps était couché sur la table d'opération et elle circulait. Et elle voyait. Ben oui, elle était témoin. Elle était le témoin. Et là, avant le Big Bang, il y a 14 milliards d'années environ dans notre univers local, il y avait l'œil, la vision des choses. Ensuite, après le Ayn, l'œil, il y a eu le Sof. Le Sof, curieusement en français, ça se ressemble, c'est le souffle. Le souffle qui veut dire que le souffle de l'esprit, on se comprend, c'est pas un déplacement d'air, il n'y avait pas d'air, il n'y avait rien, là. Sauf que l'émanation va être produite par le fait qu'il y a une pression qui est donnée de l'autre côté avant que ça éclate. Et c'est ça qu'on a appelé le Our, Aour. Et le Our donne aussi le sens de lumière, de feu, mais pas d'un feu qui consume, mais d'une réalité lumineuse, éclatante. Alors le Ein Sof, ça devient la nature même de Dieu, le Père qui est l'œil, qui voit tout, qui dirige tout et qui a la volonté. Alors la Trimurti, comme on dit, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ben alors vous allez maintenant les comprendre sous l'aspect ésotérique. Le Ein qui est l'œil, qui est le Père qui voit tout, on le représente dans les églises comme un œil dans un triangle. Vous l'avez sûrement en mémoire, ceux qui sont allés dans les églises. Et les jeunes, ben, vous saurez que dans les églises, quelles qu'elles soient, là, que ce soit une mosquée, que ce soit une église chrétienne, catholique ou protestante, vous allez voir qu'il y a des dessins, qu'il y a des symboles qui sont là. Ils ne sont pas là par hasard, ce n'est pas de la fantaisie, c'est de l'enseignement ésotérique. Ce sont les temples sacrés. Et ce sont des temples sacrés parce que ça crée quelque chose en nous, une transformation. Faut toujours garder les deux pieds sur terre. On est incarné dans la matière. Il faut pas partir les petites pattes en croisée. Et puis, on flottera pas nécessairement dans la réalité. On va s'évader. Il y en a qui savent ce que c'est s'évader avec des drogues. Hein. Bon, alors revenons à notre compréhension de ce qui s'est passé au début des temps. Parce qu'on parlait tantôt d'Apocalypse à la fin des temps. Ben alors, au début des temps, c'était exactement le même principe, c'est-à-dire à l'envers de la fin des temps. Il y avait le Ein Sof. Le Sof qui est le souffle. Le souffle de l'esprit. Quand on dit j'ai une bonne inspiration, il a fallu que tu inspires. C'est un souffle qui entre. Parce que de cette façon-là, le monde de l'esprit peut se manifester. Alors, quand on dit dans les textes sacrés de la Genèse, et Dieu vit que cela était bon au moment de la création, et Dieu vit, il a regardé, il a vu, et Dieu vit que cela était bon, le Dieu créateur, le Dieu donc, le Dieu le Père. Le souffle, c'est l'esprit, et c'est l'esprit qui se manifeste. Et grâce au souffle, on peut parler, hein? Si on ne respirait pas, si on n'avait pas d'air dans les poumons, nos cordes vocales ne vibreraient pas et ne produiraient pas les sons de la parole. Alors, on dit dans les textes anciens, et Dieu vit, et c'est suivi de, et Dieu dit. Alors, et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, le sixième jour. Alors, vous voyez que avant la manifestation dans la matière, il y avait déjà l'œil et le souffle. Puis, j'ai déjà eu l'idée que lorsqu'on arrive aux troisième étapes, Ein Sof Our, le Our qui est l'explosion, c'est comme quand vous allez assister à un concert d'un orchestre. Si vous avez déjà eu l'occasion de voir un orchestre de musique classique, entre autres, avant que le chef d'orchestre monte sur le podium, frappe avec sa baguette sur le lutrin pour dire à tout l'orchestre, attention, attention, tac, tac, tac. Là, qu'est-ce qui se faisait avant? Ben, il se faisait un chaos total, une cacophonie totale. Tous les musiciens sont en train d'accorder leur instrument à la dernière seconde avant que le concert commence. Le public est déjà assis dans la salle, puis qu'est-ce qu'on entend à l'avant? C'est toute une cacophonie de l'orchestre qui ajuste les instruments. Le chef d'orchestre entre, le public applaudit, il monte sur le podium, l'orchestre se tait, frappe avec sa petite baguette, pour être certain que tout le monde est là, attentif à ses premiers gestes du début de la création. Après le chaos, on entre, on dit le chaos, ça s'écrit C-H-A-O-S, on entre dans le cosmos. Et ça débute doucement, même si on dit c'est un Big Bang. Premièrement, il n'y avait pas de bruit. Hein? Tout le monde sait bien que dans l'univers, si tu sors de l'atmosphère terrestre, tout ce qui se passe dans l'univers, contrairement à ce qu'on entend quand on regarde Star Wars ou Star Trek ou les vaisseaux dans l'espace de science-fiction, tu les entends passer. Non, non. Quand tu es dans l'univers, il n'y a absolument aucun son. Donc le Big Bang s'est fait dans le plus grand silence. C'était la manifestation lumière. Et la lumière, c'est pas facile à déterminer. On dit qu'il y a un côté matériel parce qu'il dégage une certaine gravitation et un côté ondulatoire. Alors, ondulatoire, ça veut dire vibrationnel, une vibration. Il possède les deux caractéristiques. Alors, il y a de la matière corpusculaire et vibratoire dans la lumière. Et tout ça part dans toutes les directions. Et en partant dans toutes les directions, il est donc au centre de quelque chose qui éclate et qui prend de l'expansion continuellement. Continuellement. Après 14 milliards d'années, ça continue encore à s'expansionner, à prendre de l'expansion, à grandir et à grandir continuellement. Et plus les astronomes, avec les télescopes optiques, aussi bien que radiotélescopes qui captent les ondes, depuis le début, on est quand même capable aujourd'hui de capter le bruit du Big Bang de l'origine. Mais pas un bruit, évidemment, qui fait le son, mais un bruit électromagnétique, qu'on va dire, par les radiotélescopes. C'est le fameux quand on avait des télévisions noir et blanc au début, on allumait la télévision et tant qu'il n'y avait pas des émissions émises à la télévision, on avait de la neige. On appelait ça de la neige à l'écran. Bien, le bruit qu'on entendait, à cause évidemment qu'on transforme les ondes électromagnétiques en son dans des haut-parleurs, il faut comprendre qu'avec nos oreilles, on n'entendrait rien. Sauf que ça prend des appareils qui vont capter la vibration électromagnétique. Et à partir de ce moment-là, l'information, on la reçoit dans des haut-parleurs qui vibrent dans l'air et qui nous le font entendre. Mais comme je vous disais, s'il n'y avait pas d'air, on n'entendrait rien. Bien, il y avait une émission électromagnétique et on l'entend de la façon dont on parle quand on dit « il y a de la neige à l'écran ». Il y a de la neige à l'écran. C'était le début. 14 milliards d'années. Nous autres, la Terre, 4 milliards d'années, ça faisait déjà 10 milliards, presque deux fois plus que la vie de la Terre depuis le début qu'elle existe. Et quand elle existait au début, on l'appelait Gaïa. Oui, j'entends des nouvel âgistes qui vont dire on veut le retour à Gaïa, on veut le retour à Gaïa. Ah, hey, les boys, attention, parce que l'époque de Gaïa, c'était une Terre en fusion, en transformation, avec des volcans partout. Vous voudriez le retour de Gaïa, vous allez peut-être l'avoir, hein, avec les éruptions volcaniques qui se font un peu partout maintenant sur la Terre. Peut-être qu'il y en a autant qu'il y en avait, on prétend que non, ça augmente maintenant beaucoup. Il y a même le fameux volcan sous la Terre au Yellowstone Park des États-Unis. On l'appelle un super volcan. S'il éclatait, ça serait probablement la fin de l'hémisphère nord de la planète. Toute vie disparaîtrait. Et on sait que le sol de Yellowstone se réchauffe comme s'il y a quelque chose qui monte. Et là, les savants travaillent fort aux États-Unis pour se dire, est-ce qu'on va créer des cheminées qui vont permettre à la pression qui est sous le Yellowstone Park de s'échapper avant que ça éclate? au moment d'un éclatement, ça serait terrible. D'abord, un immense cratère se formerait. Après qu'il y aurait eu comme une montagne du volcan, parce que vous l'avez vu peut-être dans certains pays, comme le Popocatépetl, c'était un champ bien ordinaire, bien uniforme, quand tout d'un coup, oh, la montagne, le volcan est surgi du sol. Il y a même en Islande des volcans qui apparaissent dans l'océan et ça crée une île qui apparaît du fond de l'océan. Et là, il y a éruption pendant un certain temps, puis après, ben, ça se calme. Alors, ça sera la même chose. Il y aurait éruption, puis il y aurait une accalmie par après, mais l'effet aurait été désastreux. On sait que déjà, juste le mont Sainte-Helens, quand il a fait éruption dans l'ouest américain, ça a provoqué des nuages de poussière volcanique qui ont refroidi l'hémisphère nord de la planète pendant des années. On a eu des étés pluvieux quelques années à la suite de l'éruption du mont Sainte-Helens. Alors, on est dans une réalité qui est très fragile dans un sens. 14 milliards d'années, notre univers, c'est mesurable. On commence à parler maintenant dans nos dollars de dette nationale de quelques milliards de dollars. Autrefois, on disait être millionnaire, c'était fantastique. Hey, un millionnaire, 1 million. Tu peux le gagner à la loterie 2 fois par semaine. Alors, c'est vraiment à la portée, j'allais presque dire, de tous. Oui, évidemment, si on s'achète des billets. Mais c'est pas nécessaire d'en acheter des billets. On en achète un, on se fait une combinaison. Puis si les anges sont attentifs à nos besoins, ils vont entendre notre demande. Ils vont juger à la mesure de notre mérite, si oui ou non, on mérite. Et si on mérite peut-être qu'on aura le cadeau du ciel par le hasard, qui est la science des anges, qui viendront nous donner le cadeau. Vous savez, il y a 2 façons de forcer un peu le hasard. Vous prenez la même combinaison à vos tirages de loterie, là, à vos billets, toujours la même combinaison, mais toujours, toujours la même, toujours la même, de façon à ce que ça soit comme votre signature à vous dans les tirages de loterie. On sait que c'est ça ta combinaison. Et là donc, les êtres qui peuvent vous aider, que ce soit même non pas seulement des anges, mais des défunts, des êtres que vous avez bien connus, qui vous ont bien aimés, qui sont désincarnés et qui sont conscients maintenant, après avoir passé une certaine période de temps dans ce que l'Église appelait le purgatoire, le moment du jugement, le premier jugement, le jugement personnel. Puis ça, j'en reparlerai. Évidemment, on a beaucoup de rencontres. On a 1 heure comme ça par semaine en rendez-vous. Alors, je vous dis, ça va être formidable de se retrouver de façon tout à fait gratuite, tout à fait simple, par cette station de radio avec l'ésotérisme expérimental de Richard Glenn, toujours le même, qui était là en 1976 avec le même thème musical que celui que vous entendez. Et on va, avec ces rendez-vous toutes les semaines, aborder différents aspects de la démarche ésotérique, sans fanatisme, sans non plus obligation de croire tout ce que je vais apporter, approchant mes 70 ans. Évidemment, oui, ça fait du temps, qu'est-ce que vous voulez? Quand j'ai commencé en 76, j'avais 30 ans. Maintenant, j'en ai presque 70. C'est normal, le temps passe. Oui, elle a la barbe à pousser. Mais j'ai gardé le même esprit. Ça, l'esprit, ça ne change pas. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont âgés et qui me disent, si vous saviez, mon corps ne me suit plus, mais en tout cas, j'ai toute ma tête et je sais très bien. Ben oui, et heureusement, il ne faudrait pas malheureusement avoir l'Alzheimer. On sait que un ami très cher à tous qui avait suivi la démarche du Nouvel Âge, qui avait suivi la démarche ésotérique, qui avait suivi la démarche intellectuelle ou spirituelle par 4 chemins de notre ami Jacques Languirand, toujours vivant, mais affublé de l'Alzheimer. Alors là, c'est pas drôle. Parce que, tu sais, quand ton corps commence à avoir des lacunes, tu peux toujours aller en chaise roulante, tu peux toujours avoir des béquilles ou des prothèses, mais quand la tête ne suit plus, peut-être qu'il y a un aspect bénéfique, le fait qu'on s'en rende de moins en moins compte, mais au début, on s'en rend très bien compte, semble-t-il, de perdre sa tête par l'Alzheimer. Et les causes de l'Alzheimer sont multiples, et les remèdes sont aussi multiples. Ça sera un autre sujet qu'on traitera dans les semaines à venir, la question de la santé. Dit-on que la santé, c'est l'équilibre. Rester en équilibre, c'est rester en santé. Mais quand on dit équilibre, c'est à la fois sur le plan physique, biologique, là, que sur le plan intellectuel, psychologique, ou moral, spirituel. Et ça, c'est difficile à une époque où on se fait brasser de tous bords, de tous côtés, très rapidement. On verra qu'il y a des médecines traditionnelles, celles de nos ancêtres, qui viennent de la tradition peut-être chamanique des guérisseurs, hein. Et il y a la médecine universitaire, moderne, qui permet à des gens instruits et même très compétents d'aborder l'équilibre de l'être, soit par la psychiatrie pour les plans plus psychologiques, mais aussi les plans biologiques, physiques. Et on verra que l'alliance des deux, la tradition ancienne qui venait par l'expérience, alors on faisait des potions, on faisait des tisanes, on permettait à des gens de se soigner et on n'a qu'à regarder des émissions comme Les Carnets du Bourlingueur. Pour voir, il y a aussi des émissions comme Les médecines d'ailleurs, qui nous donnent un clin d'œil sur la façon dont des peuples anciens, je n'ose pas dire primitifs, je dirais peut-être primaires, du premier niveau, trouvaient par expérience sur le terrain des médicaments. Et n'oublions pas que la pharmacologie que nous avons aujourd'hui est presque toute basée sur l'exploitation industrielle de médicaments qui étaient des potions des apothicaires d'autrefois. Alors, il n'y a plus beaucoup de secrets dans la nature parce que ils ont envoyé de jeunes anthropologues, je parle des multinationales pharmaceutiques, envoyaient des jeunes anthropologues diplômés étudier le comportement des peuples primitifs et prendre en note de quelle façon ils se soignaient, par quelle plante, par quel usage d'argile ou de différents autres composés, ils soignaient tel ou tel mal, telle maladie, tel mot. Et ils rapportaient ça, et eux allaient chercher dans les plantes l'élément actif. Qu'est-ce qui provoque la guérison de ci ou la guérison de ça? Mais en allant chercher que l'élément actif des plantes, bien, ils avaient malheureusement très souvent oublié que la plante ne vient pas seulement avec l'élément actif, mais elle vient avec des adjuvants, avec plein d'éléments environnant l'élément actif. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est qu'on n'a pas ce qui risque de provoquer des effets secondaires. Et les effets secondaires, quand on a la plante intégrale, pas seulement son élément actif qui lui a été retiré, mais toute la plante au complet, on obtient simultanément ce qu'il faut pour éviter d'avoir des effets secondaires à certains médicaments, certaines potions. Il semble que ça ne dérangeait pas les multinationales pharmaceutiques qui profitaient de l'occasion pour dire, ben maintenant que vous avez un effet secondaire, ben on va vous donner un autre médicament à partir d'un autre élément actif, d'une autre potion. Et c'est comme ça que c'est un feu roulant de dépenses et de contraintes au corps, parce que le corps est obligé de recevoir le choc d'un élément actif sans avoir tout ce qui vient avec. Je pense que la médecine moderne s'en est rendue compte et les changements sont en train de s'effectuer graduellement. Sauf qu'il y a toujours un monde de différence entre le bien-être et obtenir de l'argent. Tout a de la valeur, mais qui dit valeur ne veut pas nécessairement dire de l'argent, de l'aspect de valeur monétaire. Il y a des choses tout à fait gratuites dans l'univers qui peuvent nous enrichir bien plus que des placements d'argent à la bourse. On aura l'occasion d'en parler aussi. Dans cette première rencontre que j'ai avec vous, là, à Ésotérisme expérimental, sur cette station de radio du Grand Montréal, c'était d'abord et surtout de faire valoir tout l'ensemble, la panoplie, l'éventail des sujets qu'on va pouvoir traiter avec Ésotérisme expérimental. Et je suis que le chef d'orchestre. Mon père l'a été pendant des années. Et ma mère était pianiste, sa première pianiste, là, celle qui peut jouer les solos. Et c'est de cette façon-là qu'ils se sont connus et qu'ils se sont finalement mariés et qui ont eu deux enfants, dont moi-même, Richard. Eh bien oui, ça va nous permettre de toucher à plein d'aspects qui nous concernent et qui concernent exactement le sens de cette station qui s'appelle la station radiophonique du mieux-être. Radio 1570 AM. Évidemment, avec Ésotérisme expérimental, on est exactement à la bonne place. On n'est pas là pour se faire seulement des peurs. On est là surtout pour apporter les solutions, pour apporter une réflexion optimiste, positive, qui va nous permettre de nous engager à vivre en équilibre. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire vivre en santé. Mais en santé sur les plans physiques, psychologiques et spirituels. Ce qu'on appelait sain. Une âme saine dans un corps sain. Sain, qui était la formule du Sanctus, au moment le plus important de l'opération alchimique magique dans les églises, quand on disait la transsubstantiation, où on transformait le vin en sang christique dans le calice. Parce que le premier miracle de Jésus, qui était un grand sage, bien, ça a été de transformer l'eau en vin aux noces de Cana. Et on en reparlera de toute la mythologie des mythes fondateurs quand on dit que Jésus était aux noces de Cana et que les serviteurs étaient tous énervés de se demander « Mais on manque de vin, il est venu beaucoup de gens au mariage et puis on n'a plus de vin. » Ils vont voir Marie, la mère de Jésus. Et Marie a dit « « Allez voir mon fils, le maître de la maison. » Et là, ils s'en vont voir Jésus. Et c'est là qu'il leur dit, « Mettez de l'eau dans les cruches qui sont vides. Il n'y a plus de vin dans ces cruches-là, mettez de l'eau dedans. » Et en l'espace de 20 minutes, ou peut-être d'une seconde ou deux, le tout s'est transformé en vin. Et d'une qualité supérieure à ce qu'ils avaient offert aux convives avant. Il y a une tradition nouvelle qui apparaît à l'horizon. Comme quoi Jésus était aux noces de Cana, qui étaient ses propres noces. Pourquoi les serviteurs vont voir Marie? C'est parce qu'ils sont chez Jésus ou chez Marie, et qu'à ce moment-là, le directeur de la soirée ou du party de mariage, c'était Jésus qui était en autorité, et ils ont suivi ses consignes. Et à sa son dernier repas, qu'on appelle la dernière scène, il a transformé à ce moment-là le vin en son sang. Mais en son sang de l'Alliance, c'est pas un sang biologique, là. C'est ça l'histoire. Souvent, les gens attendent la preuve, on va analyser si c'est du vrai sang. Quoique, il y a eu ce qu'on appelle miracle. Le miracle, c'est un phénomène inexplicable par la science. C'est assez compréhensible dans la démarche ésotérique que le miracle puisse exister, puisque déjà la création de l'univers phénoménal est un miracle en soi. Obtenir de la matière à partir de rien, c'est le principe de la création. Lavoisier a déjà dit « Rien ne s'opère, rien ne se crée, tout se transforme. » Mais en fait, c'est plus que ça. Dans la réalité matérielle, phénoménale, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, en effet. Et tout se transforme même au point de faire de la transmutation. Dans l'Église, on parle de transsubstantiation, c'est-à-dire que c'est pas simplement des atomes de plomb qui peuvent être transformés par l'alchimie en or, mais c'est des éléments composés de plusieurs atomes, comme le vin, qui va devenir le sang, mais un sang transsubstantiationnel, c'est-à-dire dont la matière, dont la substance a été altérée. Alors oui, dans les sciences anciennes, je parlais d'alchimie, on pourrait parler des trois grands piliers de la démarche ancienne de l'ésotérisme. Avez-vous remarqué que les églises ou les temples en général ont trois portes? Oui, trois portes. Une plus grande au milieu et deux de chaque côté. Pour entrer dans un temple, on peut passer par l'une de ces trois portes. Donc, pour entrer dans l'ésotérisme, pour entrer dans la connaissance, dans le Saint des Saints, pour être initié, d'abord on frappe. Frappez et on vous ouvrira. Pour frapper, il faut déjà s'être rendu au temple. Il faut avoir fait une démarche personnelle. Arriver et être intéressé à entrer pour être instruit. Et là, il y a un vestibule où là, on va commencer par se rendre compte si tu es en condition d'aller plus loin à l'intérieur du temple. Ou on va te garder là en disant il n'y a pas de place plus loin. Mais ces trois portes signifient déjà quelque chose de très important. Il y a la porte de l'infiniment grand, il y a la porte qui représente l'infiniment petit, et il y a la porte au centre qui représente la démarche de la Kabbale. La Kabbale, c'est la magie. C'est le principe de la magie. Dans la magie, l'âme agit. Et si vous allez dans l'infiniment grand, vous allez vers l'astronomie, qui donnera l'astrologie. Ou dans l'infiniment petit, qui est l'alchimie, qui va donner, si on veut, la physique quantique, la transmutation, la transsubstantiation. Alors, vous réalisez que les fameuses trois portes des temples ou des églises correspondent bien exactement à ces trois voies principales, de l'infiniment grand, l'infiniment petit, et la voie du milieu, je le répète, qui est la magie. Dans la magie, l'âme agit. Oui, l'âme. Et encore là, l'âme. L'âme, c'est un principe vital, on l'a vu tantôt, que l'œil, le souffle, et après l'émanation, la vie, l'univers phénoménal. Alors oui, tout ce qui vit a une âme. Et je dirais que même le minéral a une âme. La preuve, on peut s'en servir en psychométrie. Vous donnez à un médium, à un psychique, à quelqu'un qui a des pouvoirs psioniques, un objet dans sa main, il va ressentir très rapidement à qui il a appartenu, quelles ont été les étapes de l'existence de cet objet. On peut avoir une intention précise de retrouver la personne à qui appartenait l'objet. La personne est perdue et on ne la retrouve pas. Et on va découvrir des choses dans le monde subtil par la psychométrie. Puis on utilise le mot psy, psionique, les pouvoirs psioniques, les pouvoirs psychiques, la psychologie. Partout où on utilise psy, c'est qu'on a référence à la psyché. La psyché, c'est l'âme. Et donc, si on peut faire de la psychométrie avec une pierre, avec un objet inerte, on se rend compte qu'il y a quand même une vie dans cet objet-là. La preuve, d'ailleurs, c'est que dans l'univers, les atomes, la matière, se transforment lentement. Vous savez, le radium, le strontium, des éléments de la nature, naturels, les éléments qui vont perdre leur radioactivité avec les siècles. Donc, il y a une transformation, même si c'est presque invisible à l'œil, à l'être humain. J'aime beaucoup des films un peu initiatiques comme Histoire sans fin, où on voit des roches qui se transforment en personnages avec une tête, deux bras, deux jambes, là, puis qui parlent avec une grosse voix, parce qu'effectivement, ils veulent faire comprendre que même dans la matière inerte, il y a comme quelque chose de vivant. Oui, on n'en doute pas, les plantes ont une âme, ce qu'on appelle l'âme végétative. Je parlais de Pamela Reynolds qui, elle, était placée dans un état végétatif. Oui, elle était comme un légume. Ben, elle a retrouvé sa conscience et sa pleine conscience, heureusement. Mais il y a des gens qui restent dans l'état végétatif. Après un accident d'automobile, ils sont dans le coma. Puis après, ils reviennent, mais en revenant, on s'aperçoit qu'ils sont comme absents. Leur conscience est comme pas encore intégrée dans leur corps. Et pourtant, ils sont conscients. J'ai bien dit, ils n'étaient pas intégrés dans leur corps, mais ils sont encore conscients. Et on peut parler, puis eux entendent, reçoivent le message, l'information. Ils sentent nos vibrations, notre état, un peu comme un moribond. Quelqu'un qui va mourir, on pense qu'il est dans le coma, on pense qu'il est absent. Oui, il est absent de son corps, mais il est juste à côté de nous, dans la chambre d'hôpital ou dans la maison. Il peut même se déplacer et aller voir des personnes, les regarder, même se manifester, se présenter. On va parler de toutes ces dimensions de la réalité. De la réalité, comme je le disais, qui peut être à la fois du monde matériel, phénoménal, ou du monde immatériel, invisible, nouménal, comme disaient les Grecs. Le plérôme, le nous. Alors, on comprend qu'avec la démarche que nous aurons le plaisir de faire ensemble, je vous invite à nous suivre toutes les semaines à la même heure ou alors de réécouter cette rencontre. Celle-ci, c'était la première de la série Ésotérisme expérimental. C'est disponible sur Internet et à la fois sur le site d'ésotérisme-exp.com, sur Internet. Qui est mon site, qui est divisé en deux sections, une grand public et l'autre réservée à ceux qui veulent faire une démarche plus poussée, qu'on appelle, nous, le Club Créé. C-R-E accent aigu, accent aigu, E, qui correspond au Club de recherche et d'études en ésotérisme expérimental. Pour cela, il faut payer un abonnement. Ça revient à peu près à 12 $ par mois. C'est vraiment pas beaucoup pour voir des vidéos parce que c'est en texte, en images et au moins 5-6 heures de vidéos par mois exclusifs à ceux qui sont dans le Club Créé. Le formulaire d'abonnement est sur la page d'accueil du site régulier d'ésotérisme expérimental. Je répète l'adresse esotérisme-exp.com. Pas d'accent. Pas de majuscule, c'est pour ça que je le prononce comme ça, E-S-O-T-E-R-I-S-M-E, traduction EXP.com, esotérisme, traduction EXP.com. Il y a de plus, dans la colonne de droite, vous le verrez, une icône qui est marquée Forum Orandia. C'est le nom du forum qui est associé au site d'ésotérisme expérimental, qui est indépendant, mais il faut d'abord vous y inscrire pour pouvoir écrire. Parce qu'on veut que les gens qui écrivent, on soit capable de les retracer, soit parce que c'est l'intérêt qu'on porte envers eux à cause de la qualité des informations qu'ils apportent, leurs commentaires, questions, suggestions, réactions à d'autres écrits par d'autres forumiens, ou pour éviter aussi que des gens abusent de la liberté d'écrire et c'est diffusé immédiatement, sans censure au départ. Mais il y a quelqu'un qui contrôle et qui surveille toujours ce qui s'écrit. Plusieurs personnes d'ailleurs, c'est un comité de personnes qui sont disponibles en tout temps pour lire ce qui s'écrit sur le forum et intervenir au besoin. Mais voilà, c'était notre première rencontre. Ici Richard Glenn qui vous souhaite d'être heureux. On a tout pour cela ici, maintenant. Et donc, à bientôt pour une prochaine rencontre avec Ésotérisme expérimental.